Le foot international avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Foot International sur RFI avec une nouvelle toute récente, toute fraîche qui vient de nous parvenir. André Villas-Boas, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le Portugais, passé par Porto, Chelsea, Tottenham et le Zénith Saint-Pétersbourg, arrive de Chine pour remplacer Rudy Garcia. Plaira-t-il au Vélodrome ? Tony Séliès nous donnera ses premières impressions de Marseille. Une double couronne pour le Bayern Munich à leur 7e titre consécutif de champion. Les insatiables ogres bavarois ont ajouté une Coupe d'Allemagne. Ribéry et Robben ont même porté une dernière fois le maillot rouge. Et Niko Kovac a été conforté comme entraîneur. La fin d'une saison et la fin d'une époque en Italie. Daniele De Rossi, le numéro 16 de la Roma, a quitté son club après 18 saisons, faisant pleurer tout un stade, le Stadio Olimpico de Rome et tous ses spectateurs. Un grand homme et une personnalité rare ont quitté l'Italie alors que l'Atalanta Bergame fêtait sa toute première qualification en Ligue des Champions, récompense de son football qui a régalé les tifosi cette saison. L'Inter sur la quatrième marche alors que le malheureux Milan vit une vraie révolution. Matteo Cioffi nous en dira plus. Marc Lebras, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes content ?
Oh, je suis ravi. Oui, c'est vrai.
Ouais.
Bah oui, c'est bien.
Non, non,
bah
mais
oui.
On ne sait jamais avec vous si c'est de l'humour.
Oui. Non, non, pas du tout.
Non, non. Bon.
Garcia est parti, donc tout le monde est content.
Ah, d'accord. C'était ça, en fait, sous-jacent, j'avais bien compris. Gilles Verdez, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous êtes content ?
Pour Marseille ? Non.
Oui. Non ?
Non.
On donne tout de suite la couleur. David Lortelari, bonjour. Vous
bonjour,
êtes content
Annie.
Pour le Bayern ?
Bonjour à tous. Absolument.
Absolument. Un petit bonjour à certains de nos auditeurs Karamoko qui nous écoutent depuis tout bas au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Nestor Gonsalves, François-Xavier de Yaoundé au Cameroun, So Abdourahman de Brazzaville et puis Mamadou Saliouci de Libreville. Tous ceux qui nous parlent sur notre page Facebook de l'émission. Radio Foot, c'est parti. Allez l'OME, hein, c'est comme ça qu'on dit du côté de Marseille.
Bien sûr, toujours.
L'OM renouera-t-il donc avec la victoire cette saison, avec l'Europe aussi, la Ligue des Champions ? Les fans de l'OM peuvent-ils rêver ? Eh bien, l'équipe a en tout cas un entraîneur. Il vient de signer son contrat donc avec le président Jacques-Henri Hérault. La photo circule sur les réseaux sociaux. Un message de welcome aussi de la part du club. Il est aux côtés donc de André Villas-Boas, Jacques-Henri Hérault, le Portugais pressenti ces derniers jours pour être le successeur de Rudy Garcia. C'est donc fait, Tony Séliès, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tony, c'est une affaire, on peut dire, rondement menée.
Alors, ce qui est intéressant, c'est deux choses. Après, j'ai beaucoup de doutes, comme vous, à lever. On verra bien, peut-être le temps nous dira de toute façon. Mais il y a beaucoup de paris avec ce garçon-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été rapide, en tout cas. On ne sait pas de quand remontent exactement les négociations. Mais on est fin mai, Rudy Garcia est dégagé de l'Olympique de Marseille depuis à peine une semaine. On a déjà le nom, on avait déjà depuis quelques jours aussi le profil de l'entraîneur qui est arrivé. C'est signé. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'est fait rapidement. Alors que l'OM, ces dernières saisons, s'est plutôt fait remarquer par le fait de recruter des joueurs, pas des entraîneurs, mais des joueurs au dernier moment qui mettent pas un pied devant l'autre, penser à Mitroglou, à Denour et compagnie. Donc là, ça au moins, c'est fait très vite. Pour le reste, il y a pas mal d'interrogations.
Alors,
c'est qu'il a signé 2 ans, qu'a priori, il est cher quand même en salaire. C'est pas votre argent, c'est pas le mien non plus, mais on parle de 450 000 euros par mois. Il arriverait avec Ricardo Carvalho dans ses valises, qu'il a connu en Chine, c'était lors de sa dernière expérience, qui est loin quand même. Hein. C'était il y a 1 an et demi maintenant, ça fait une éternité que Villas-Boas n'a plus entraîné, mais on commence à voir en tout cas les hommes avec lesquels il va s'entourer. Donc on voit un peu plus où on met les pieds avec lui.
Tony, quels seront ses pouvoirs? Est-ce que du côté du recrutement de cette équipe, justement, on sait quels étaient les larges pouvoirs de Rudy Garcia? Est-ce que lui aussi aura plein pouvoir ou son entente apparemment avec le directeur sportif Zubizarreta le déchargerait peut-être un peu de cela ou donnerait-il son avis?
Mais c'est ça qui est intéressant aussi et qui est à mettre a priori sur tout ce qui est positif, c'est que c'est un choix, non pas Jacques-Henri Hérault, même si c'est validé évidemment par le président, mais c'est Andoni Zubizarreta qui l'a pisté, qui le connaît depuis plusieurs années déjà, qui l'a réclamé, qui l'a voulu, qui l'a proposé. Donc on sait que le binôme a priori devrait fonctionner, le trinôme même avec Jacques-Henri Hérault. On a bien vu depuis que Rudy Garcia est arrivé à l'Olympique de Marseille qu'il avait centralisé les pouvoirs et ça laissait beaucoup de doutes sur comment fonctionnait ce trio. On a beaucoup dit qu'Andoni Zubizarreta finalement ne servait strictement à rien, que les joueurs qu'il avait proposés étaient recalés sans cesse par Rudy Garcia. Est-ce qu'on va échapper à un recrutement style Grégory Sertic, qui était du même agent que l'entraîneur avec Villas-Boas? Ça, je peux pas vous le garantir. Mais on se dit que là, peut-être, sur un plan sportif en tout cas, c'est beaucoup plus équilibré sur le papier.
Une dernière chose, Tony, avec vous, donc, qui êtes à Marseille. Est-ce que les premières réactions sont positives du côté de la Canebière? Parce que ça fait quelques jours qu'on se disait que André Villas-Boas était non seulement sur la liste des possibles successeurs de Rudy Garcia, mais aussi qu'il avait un certain favoritisme. Est-ce que les Marseillais sont prêts à lui donner sa chance, à voir, à attendre?
Alors dans l'ensemble, parce que ça fait plusieurs jours effectivement que je fais tous les bars et tous les clubs de supporters,
ah bon,
j'ai pas attendu cet après-midi dernier moment. Honnêtement, à Marseille aujourd'hui, trouver un supporter heureux de l'arrivée de Villas-Boas, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Je rame comme un fou pour en trouver qui soit, alors pas qu'il saute au plafond, mais qui soit juste content.
Mais il y a peut-être tout simplement pas de supporters heureux.
Très compliqué. La plupart du temps, ils me disent quoi? Ils me disent que c'est le Canada Dry de José Mourinho, qu'il a réussi une seule fois pour sa première saison. Ça pouvait être l'itinéraire d'un enfant gâté, mais qu'il a réussi une première saison derrière. Il s'est pris une porte en pleine figure. Faut pas oublier qu'il s'est planté complètement à Chelsea. Mm-hmm. Que derrière, c'est mi-figue, mi-raisin à Tottenham. Et ensuite, c'est un début d'exil. La Russie, ok, d'accord, mais toujours des clubs avec des gros moyens. Là, l'exil en Chine. Est-ce que l'OM est un club avec des gros moyens? Pas vraiment. C'est jamais trop ce genre de club-là qu'il a dirigé. Mais j'en ai rencontré cet après-midi qui commencent à prendre du recul, qui se disent, après tout, Villas-Boas n'a-t-il pas vu trop haut au début de sa carrière? N'a-t-il pas été trop ambitieux? Peut-être qu'il n'avait pas encore les carrières, les épaules assez solides, justement, pour rentrer dans un vestiaire comme celui de Chelsea. Regardez le vestiaire de Chelsea à l'époque où Villas-Boas débarque, il a 33, 34 ans, il n'y a que des monstres en face de lui, des joueurs qui ont, pour certains même, son âge. Ça a pu être beaucoup plus difficile pour lui de s'imposer à l'époque en Angleterre. Peut-être qu'avec 10 ans de plus, dans un club moins costaud comme l'OM, Villas-Boas va-t-il rentrer dans un costume qui est maintenant, enfin, est taillé pour ses épaules? C'est l'espoir, en tout cas, que caresse une partie des supporters marseillais.
Bon, ben je crois que Tony, on aura l'occasion de reparler de l'OM et de la refondation, on va dire, de ce projet avec vous.
J'ai senti Marc Libra assez
vous voulez l'entendre?
J'espère ne pas lui avoir coupé l'herbe sous le pied.
Marc. Absolument pas, Tony. Moi, je suis très, je suis très content. Je pense que la plupart des supporters marseillais n'ont qu'un but, c'est que l'OM évolue et que l'OM gagne, que les gens vibrent. Donc, c'est l'incertitude parce que la plupart, on reste toujours sur ce qui s'est passé avant de Villas-Boas. C'est vrai qu'à l'époque de Chelsea, il est très jeune, il y a des joueurs qui ont 34-35 ans à cette époque-là.
Il a été surcoté peut-être à cause de Laura Mourinho.
Mais quand on passe derrière Mourinho, c'est toujours très compliqué. Mm-hmm. C'est jamais
évident.
Oui,
ce surnom, number two.
Oui,
mais
il y a qu'un special one, il y a un number two, c'était lui, donc il n'a pas de chance. Après, on va se rappeler aussi quand Guéret se signe à l'Olympique de Marseille, je me rappelle très bien, les gens étaient surpris, qu'est-ce que c'est que ça, on va aller où? Et on a vu ce qui se passe. Donc, je suis ravi qu'un entraîneur qui a un petit nom quand même, avec un joueur qui s'appelle Carvalho, s'il arrive, qui est quand même un joueur qui a du caractère, qui connaît un petit peu le métier. Et autre chose, enfin, on découvre que Zubizarreta est à l'Olympique de Marseille. Tony l'a dit, Zubizarreta, c'est bien. Non, parce que c'est quand même.
Moi aussi, je l'ai dit.
C'est exactement, Nice, c'est un grand nom. Et Rudy Garcia s'est permis pendant 2 ans de l'éclipser. Il ne l'apparaissait absolument pas. Donc pour ça, c'est très bien.
Mais non.
Oui, et puis maintenant, il faut le laisser travailler parce que je pense que le timing est très bon. Par contre, il faut se dépêcher parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui sont bien à Marseille. Ils sont bien au soleil. Donc, il faut essayer de les faire partir.
Une dernière question, Tony, et on vous libère. Est-ce que André Villas-Boas, fala français, est-ce qu'il parle français?
Lui parle français plutôt bien.
Oui, hein, c'était ce qu'on disait.
Carvalho également, ça c'est intéressant. Pour s'adapter au vestiaire, c'est sûr qu'il va gagner du temps. Mais avec quel joueur? C'est une bonne question, parce que ce que soulève Marc, hein, c'est qu'il y a beaucoup de trentenaires, très bien payés à l'OM, qui semblaient complètement usés mentalement et physiquement cette saison. Est-ce qu'il va être capable de les relancer ou de leur trouver une porte de sortie? Moi, il peut leur dire en français, en néerlandais.
Ils vont comprendre.
Je sais pas, mais bon courage à lui.
Non, mais parce que le welcome sur la page du club est effectivement en anglais, donc. Et est-ce que lui a déjà dit droit au but ou non?
Pas encore, écoutez, on verra ça demain matin. Ça avait été,
vous lui poserez la question de notre part.
La présentation de Rudy Garcia, il lui-même avait beaucoup joué avec le « on craint des gains » qu'il avait vu. Moi, j'ai pas absolument pas l'accent, donc demandez plutôt à Marc pour ça. Rudy Garcia avait beaucoup joué là-dessus sur son entrée. C'était faussement une réussite. Bon, on voit que ça a été beaucoup plus compliqué. Juste un mot, moi, j'ai eu encore un supporter hier qui vit en Russie, qui a vu tous les matchs du Zénith, qui m'a dit oh, « attention, hein, vous êtes en train de récupérer le cousin portugais de Rudy Garcia. C'est le même, grosse tête, il passe pas les portes. Son jeu, c'est pas sexy,
ça,
c'est une pleureuse, il a toujours toutes les excuses pour perdre. Voilà. Non. Bon courage, hein, bonne journée.
Merci. Merci Tony, on va rebondir là-dessus. Alors, merci beaucoup Tony d'avoir été en direct avec nous en plein milieu de cette actualité. À très bientôt. Merci. Il a disparu, il est tombé dans dans le vieux port, n'est-ce pas? Gilles Verdez, comment vous voyez-vous cette arrivée de cet entraîneur qui a une bonne présentation, on va dire, mais en même temps qui a été sans doute surcoté, ce qui a peut-être aussi un peu empêché un début de carrière plus brillant?
J'aimerais vous dire que c'est un choix gagnant-gagnant, mais je vais être honnête avec moi-même et avec vous et les auditeurs, j'y crois pas une seconde. En fait, il y a une erreur originelle pour moi. C'est que quand vous êtes un club en crise, vous prenez pas un entraîneur en crise. Là, il y a deux crises qui se rejoignent. Donc, rien de bon ne va en sortir. Villas-Boas, c'est un ex-bon entraîneur. Il est déjà ringardisé si jeune.
Mais
c'est
Anthony
un exploit.
A raison. Il est peut-être, c'est peut-être à sa taille et à sa mesure. C'est une équipe qui ne jouera pas l'Europe.
Ah, mais ça, Annie, je peux pas vous laisser dire ça. Vous considérez donc que Marseille n'a pas besoin d'un très grand entraîneur parce que ce serait un club moyen. Ça, pour moi, je ne peux pas entendre ça. Je trouve que Marseille n'a pas fait le bon choix. Cet entraîneur-là, il a des principes qui sont extrêmement rigides. C'est presque dans son caractère un psycho-rigide. À Marseille, vous imaginez, dans ce contexte volcanique, je ne sens pas du tout cet assemblage. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner, mais j'espère me tromper.
Bon, c'est un latin peut-être, David Lortolari.
C'est marrant parce que moi, j'ai le souvenir de sa période réussie à Porto, avec des jeunes, avec un groupe. Mais c'est amusant parce que le terme que vient d'employer Gilles, le qualificatif de rigide, correspondait parfaitement au personnage dans son costume, assez rigide à l'époque.
Un peu propre sur lui, oui.
Voilà. Bien coiffé, etc. Ça a fonctionné. Moi, j'avais aimé. Ce sont mes souvenirs les plus précis, en fait, de son parcours. C'est Porto. C'est la réussite avec quelques jeunes, avec une équipe peut-être à sa main, justement. L'environnement était complètement différent.
Évidemment.
Et derrière, il n'a pas pu.
Il a un peu brûlé les étapes en allant à Chelsea.
Peut-être. Il n'a pas pu démontrer qu'il allait avoir la maîtrise sur un environnement plus difficile, sur un groupe plus huppé, sur aussi avec une échelle financière différente. Donc moi, je suis comme les messieurs là, même si Marc essaye de cacher sa crainte.
Ah non, mais je suis
circonspect.
Mais Marseille, pour moi, est en reconstruction totale. Donc qu'un coach de ce renom puisse venir, faut se poser la question de savoir qui a envie de venir à Marseille aujourd'hui. Je pense que Villas-Boas, c'est plutôt pas mal pour eux. Mais non, après, il faut que les mecs aussi en face répondent présent et que les joueurs lui rendent l'appareil.
On verra surtout si les supporters lui donnent un état de grâce, comme on dit,
mais
du côté du
Vélodrome. C'est même pas forcément l'année où Marseille va en finale de Ligue Europa, c'est-à-dire pas cette saison, la saison précédente, Marseille joue pas très bien, mais il se passe des choses sur le terrain.
Voilà,
les joueurs
ça.
Ne trichent pas. À Marseille, on vous pardonne tout. Par contre, il faut pas tricher avec eux. C'est tout.
Ouais, et on verra donc, tout dépendra effectivement aussi de l'effectif. Allez, direction l'Allemagne.
Raben gewonnen, alles zusammen. Und du weißt, sie bleibt ganz leben. Wir können nicht vergessen, was wir haben gemacht zusammen. Dankeschön für alles. Dankeschön für meine Team. I love you. Merci.
C'est David Finzel qui a fait le DJ du côté de Munich.
Mais Annie, il n'y a même pas besoin de montage puisqu'ils ont passé ce morceau sur la place de Marienplatz.
Mais c'est la bande
dimanche.
Originale.
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'était quand Ribéry a fini de parler. Il a parlé donc sur la chanson de Joe Dassin. En tout cas, il est trilingue, notre Franck Ribéry national.
Avec un accent français puissant. et avec on lui pardonne parce qu'en allemand on met pas les mots dans le même ordre qu'en français, lui il les met dans l'ordre français et tout le monde comprend, donc tout va bien. Écoutez, c'est comme s'il disait, s'il avait dit à l'instant, nous avons ensemble gagné, alors qu'il faut dire nous avons gagné ensemble. Mais ça fonctionne.
Unai Emery nous a dit qu'il fallait pas se moquer des accents, n'est-ce pas? Donc on va pas se moquer de Franck Ribéry qui apparemment est vraiment une idole et très aimé du côté de Munich. Franck Ribéry qui donc finit en beauté ses 10 ans au Bayern. Les Bavarois concluent leur saison non seulement avec ce 7e titre consécutif de champion, mais aussi par une victoire en Coupe d'Allemagne, match remporté par 3-0 face à Leipzig. C'est un happy end finalement, David Lortolari, cette saison qui avait un peu commencé d'une façon brinque-ballante.
Oui, indiscutablement, parce que quand on voyait le sourire vraiment béat des deux présidents, Hoeneß et Rummenigge dimanche, ça veut dire que non seulement ils étaient soulagés d'avoir obtenu des choses cette saison, alors qu'ils avaient du retard à l'automne et à l'hiver, soulagés et même satisfaits quand même, parce que ces clubs-là, on le sait, il faut gagner des trophées chaque année, ça fait 19 coupes d'Allemagne remportées, 29 titres de champions nationaux, et on a déjà au micro ce week-end annoncer qu'on aimerait bien un contron l'année prochaine, 20e coupe et 30e titre de champion. Donc ils ne sont pas rassasiés.
Et ils restent favoris évidemment pour les gagner, j'imagine, Gilles, l'année prochaine. C'est l'ogre bavarois.
Ah oui, absolument. Mais c'est un ogre qui doit quand même se régénérer. C'est-à-dire que là, on a une fin de cycle. Elle est sans doute brillante sur les derniers jours, moins quand on prend la globalité de la saison, mais là il faut se relancer, ce sera pas avec un nouvel entraîneur, mais il faut des joueurs. Et là j'ai l'impression qu'ils se lancent dans une campagne de recrutement très ambitieuse, en
rajeunissant. Ils ont déjà un peu commencé, Lucas Hernandez, avec deux de nos champions du monde,
absolument,
avec Pavard.
Ils veulent le Roi Sané, donc là ils sont prêts à injecter une somme d'argent considérable. Parce que City n'est pas absolument vendeur, donc il va falloir monter quand même. Pour le Bayern, c'est pas courant, mais ça va faire un gros transfert. Ce sera un beau coup, parce que ramener un Allemand en Allemagne, c'est à tous les niveaux. On rentre à la maison, donc ça c'est bien. Mais ça suffira pas, il faut régénérer l'effectif pour que le Bayern redevienne le Bayern.
Marc, on disait une happy end, mais c'est surtout une sortie de route qui a été corrigée finalement pour une équipe qui habitue pas ses supporters à ça.
Ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux finir comme le PSG champion et sur les trois derniers mois ne plus jouer et être champion, ou être champion dans les conditions du Bayern? C'est-à-dire qu'à la trêve, on a un doute, mais octobre, novembre, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, Dortmund devant, jusqu'à 8 ou 9 points d'avance.
9 points finalement, oui.
Jusqu'à 9 points. Et puis finalement, et puis un sprint final qui s'engage et on fait ce qu'il faut avec un suspense.
Je me souviens qu'ils avaient déjà fait ça, Marc. Vous vous souvenez à l'époque de Guardiola?
Oui, il avait déjà fait, mais c'est surtout que, comme le dit Gilles, on est à la fin d'un cycle, mais on l'a pas vu la fin du cycle. Parce que souvent, on parle de fin de cycle, comme au Real, ah ça y est, c'est fin de cycle, ils finissent troisième et les joueurs vont partir, c'est compliqué. Là, ben ouais, mais les patrons ont salué. Et heureusement pour eux, ils sortent par la grande porte et ça a été dur. Oui, ça a été dur. Ribéry n'a pas toujours joué. Robben, les blessures. Tout ça. Mais en tout cas, à l'arrivée, on voit pas forcément la crise. Il n'y a pas besoin de crise puisqu'on va se régénérer. On va repartir sur un nouveau curseur. Mais à l'arrivée, t'es champion quand même, quoi. Donc sur la ligne, le palmarès. Et là, par contre, on se dit, mais ils ont été champions. Et rappelez-vous, et pourtant, ils étaient sur le déclin. Certains joueurs partaient, et ils ont été champions.
Oui, alors par rapport à d'autres équipes qu'on disait sur le déclin, on pense quand même au Real, évidemment.
Mais, par exemple.
Là, ils ont réussi à corriger. Mais le Bayern n'est pas tombé, peut-être dans un travers qui est de virer l'entraîneur en milieu de saison. On se souvient de l'histoire Ancelotti. Avant aussi, si je me trompe pas, l'entraîneur hollandais. À chaque fois,
il y a eu Van Gaal, voilà. Louis Van Gaal.
On rappelait un peu en pompier Jupp Heynckes. Oui. Là, finalement, Niko Kovac réussit à redresser la barre et du coup, on le conforte. Il va rester. C'est un entraîneur jeune. Est-ce qu'il, avec un effectif qui va être régénéré, est-ce qu'il sera l'avenir du Bayern selon vous, David?
Oui, on peut le penser.
Comment fonctionnent les clubs allemands, c'est-à-dire le travail sur la longueur, sur la durée.
Oui, il est le grand gagnant. C'est vrai que parallèlement, Lucien Favre, le Suisse à Dortmund, a été prolongé aussi par ailleurs, il est le grand gagnant de la saison, Kovac, parce que effectivement, s'il a eu à un moment un peu de crédit et qu'on a été un peu patient avec lui, c'est aussi parce que le raisonnement est assez simple en fait. C'était l'homme de Uli Hoeneß, le deuxième président Rummenigge avait accepté sa venue, et donc le faire partir au bout de trois défaites, au bout de la première tempête, c'était aussi se désavouer soi-même. C'était aussi dire, on s'est trompé. Alors ça aurait pu être une remise en question, éventuellement, ça peut être un scénario possible. Ils ont choisi de le conserver, de lui laisser laissé le temps de retrouver un peu la main sur son vestiaire. On sait qu'il y a eu des joueurs qui n'étaient plus trop concernés. Boateng, le trentenaire, n'est plus un joueur de football aujourd'hui, très clairement. Mats Hummels commençait à se poser aussi beaucoup de questions avec la oui. remise en question en plus avec
la mise à la retraite internationale. Oui.
Ces joueurs-là ont été, comment on pourrait dire, un peu cocoonés. Ça, c'est apprécié. Ribéry l'a aussi apprécié par le passé. Il y a quelques saisons, il avait été protégé. Les joueurs apprécient cela. Et cette patience de la part des dirigeants fait qu'aujourd'hui, ce serait encore plus illogique de leur part de dire, bon, bah, maintenant, t'as gagné le titre, t'as gagné la coupe, on va te remplacer par un autre. Finalement, Kovac s'est renforcé et les dirigeants sont plus en situation aujourd'hui de dire ce serait incompris en Allemagne de le laisser partir.
Alors ce serait incompris là au mois de mai-juin.
En ce moment.
Je sais pas si en novembre-décembre si jamais les résultats sont moyens.
Parfaitement
d'accord. Et si effectivement le Bayern est allé au bout de ses projets de recrutement, si Kovac à ce moment-là a du mal, si ça fonctionne un peu moyennement,
qu'il a sûrement déjà brûlé un joker.
Ah oui, pour moi il en a plus, c'est-à-dire que au mois de décembre clairement on le virera si jamais les résultats sont pas là, si en Ligue des Champions le Bayern quand même qui aspire
s'il passe pas,
retrouver les sommets européens, s'ils n'y sont pas, à mon avis Kovac a du souci à se faire.
Oui, je confirme.
Je vois, vous êtes d'accord. Pas de happy end, par contre, dans cette Bundesliga pour Stuttgart. Alors, oui. Stuttgart, eux, ils avaient très mal commencé la saison, mais ils n'ont jamais réussi à corriger. Ils n'ont pas redressé la barre et ils ont perdu le match de barrage disputé face à l'Union de Berlin.
Qui est donné par Union Berlin dans ses traditionnelles couleurs à domicile, rouge et blanche. Dans la bronca, Altofest Rhein, moins de 20 mètres de la cage de Rafał Gikiewicz, le bon coup franc en faveur des visiteurs du VfB Stuttgart. Ça sera pour Denis Aogo, pied gauche, et c'est au fond pour permettre au VfB Stuttgart de trouver l'ouverture très vite.
Regardez, il est en position d'enjeu. Hein.
Alors il y aura peut-être l'intervention de Guido Winkmann pour alerter Christian Dengart.
Voilà, c'est normal. Pour ça, c'est normal.
On est plus proche que jamais de la troisième relégation de l'histoire de Stuttgart. Ballon sorti, Schmid à barre. Que dit Christian Dengart ? C'est terminé. 0-0. Union Berlin crée un exploit gigantesque. Et pour la première fois de son histoire, accède à la Bundesliga.
Quelques notes de Nina Hagen dans cet hymne de l'Union Berlin, donc c'est ça, Berlin.
Berlin en allemand. Ça signifie beaucoup cet hymne, Annie, parce que il est dit là-dedans, qui ne se laissera jamais acheter par l'Ouest, c'est l'Union Berlin. Donc ça a tout un contexte historique qui ressort.
Oui, justement, c'est ce que vous aviez tweeté d'ailleurs pendant ce match. C'était le symbole d'un match encore, de ce qui aurait pu être l'Allemagne de l'Ouest contre l'Allemagne de l'Est hier.
Exactement. Stuttgart avec son opulence financière, 650 000 habitants, le siège du grand constructeur Mercedes-Benz, un symbole de
son passé.
Oui, et puis un niveau de vie confortable dans le sud-ouest de l'Allemagne, et puis de l'autre côté, un club à l'ancienne, qui est parti dans une espèce de schizophrénie d'ailleurs, parce qu'il va bien falloir s'adapter à la première division à laquelle il accède pour la première fois, mais à côté de ça, on a conservé des vieilles traditions, un tableau d'affichage à la main, l'hymne, tableau d'affichage à la main, un stade de 22 000 places, dont 18 000 sont debout, 18 000 places debout dans ce stade, qui va être rénové cet été d'ailleurs, pour permettre d'être un peu plus conforme et de s'agrandir aussi. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le cinquième club de Berlin qui accède à la première division. Il y en a eu d'autres, il y a le Hertha et d'autres. Mmh. Et c'était le club qui était en deuxième division depuis le plus longtemps. 10 années passées en D2, à piaffer d'impatience pour enfin monter. Donc, ce n'est pas un club qui arrive de nulle part. C'est un club qui a maintenant une longévité en deuxième division et qui est prêt, sur le plan structurel et économique, à affronter la D1. Après, sur le plan sportif, c'est autre chose. Ça va être plus compliqué.
Oui, ça, on verra en début de saison l'année prochaine. Gilles.
J'ai l'impression de revivre le RDA RFA de 1974, le fameux à la Coupe du Monde, en écoutant David. Bon, ok, c'est bien pour Union Berlin. Je voulais souligner quand même que pour Stuttgart et Pavard, c'est un échec tonitruant, monumental, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de descendre. Il est arrivé, lui, il a fêté la montée. Il quitte le club. il les laisse comme ça. En fait, dans la descente, ouais, c'est un échec monumental. En plus, il a eu à un moment une occasion de donner à son club le but qui les aurait sauvés. Donc voilà, lui, pour moi, il arrive au Bayern, mais psychologiquement, à la fois libéré évidemment de pas jouer en deuxième division, mais quand même un champion du monde qui descend, ça fait mal.
Marc, on l'avait vu d'ailleurs. Enfin, il fait partie de ces joueurs qui ont raté leur saison post Coupe du Monde, Pavard.
Oui, Sidibé aussi. Enfin, il y en a pas mal qui ont souffert.
Pas sous le maillot des Bleus d'ailleurs. Hein, on l'a vu toujours.
Sous le maillot des Bleus, ça a toujours été très intéressant. C'est peut-être qu'il a besoin d'avoir des joueurs qui sont très bons autour de lui.
Parce que c'est peut-être pas un défenseur qui empêche une équipe de descendre.
Ça contribue un peu quand même.
Ils ont encaissé beaucoup de buts.
Mais après, quand vous jouez dans une grande équipe, aujourd'hui, vous mettez n'importe quel joueur de Ligue 1 dans l'effectif du PSG, celui du PSG qui veut jouer, pas le PSG des trois derniers mois. Croyez-moi, le joueur, on va dire un bon joueur, c'est comme s'il devient une star. Tout est facile, tout est très facile.
En tout cas,
par contre, à l'inverse, vous trouvez dans une équipe moyenne, vous avez du talent, c'est très compliqué. Donc Pavard a une saison ratée, il a vite intérêt de se rattraper. J'espère que
en
ça fera.
En plus, au Bayern.
Ah ben surtout au Bayern. Mais après, le Bayern, c'est une grosse sécurité. Donc si vous voulez,
mais qui risque de compter rapidement sur lui en plus.
Ah mais ils vont compter sur lui. Le problème, c'est que c'est lacune. Puis en plus, ils vont prendre le jeune Hernandez aussi. Donc donc ça peut être pas mal. Attention à lui, quoi. Il faut qu'il travaille maintenant.
David, pour terminer, ce qu'on peut dire quand même, c'est que du coup, l'année prochaine, on aura aussi un derby dans la capitale de l'Allemagne.
Oui, et les Allemands adorent ça. Il y a d'autres derbies aussi, on va pas tous les citer. Mais oui, entre Francfort et Mayence aussi, qui sont très proches. Là, il y a une trentaine de kilomètres. Berlin est très étendu, et il y a une trentaine de kilomètres entre le stade du Hertha, qui va symboliser l'Ouest, et le stade de l'Union, qui symbolise un peu l'ancienne Allemagne de l'Est.
Oui, c'est à l'ancienne. Là.
Et il y a une vraie rivalité, mais assez saine, qui a été contextualisée ces derniers temps lorsqu'on a compris que Union pouvait monter. En Allemagne, on est content que la capitale retrouve deux clubs en première division parce que ça a été pendant longtemps une espèce de marécage et on progressait pas. Et aujourd'hui, cette rivalité-là va faire du bien à la capitale. Le maire de la ville s'en est réjoui et ça n'était pas simplement une formule. On sent que c'est une ville très sportive par ailleurs et le football va retrouver la place qu'il doit avoir dans une capitale aussi grande.
Parce que le Hertha Berlin, il a du mal aussi à monter dans le championnat et dans la hiérarchie des clubs allemands, en tout cas ces derniers temps.
Oui, absolument. Ouais. Mais voilà, ça fait deux clubs qui peuvent en fait, l'un avec le stade olympique qui est pas toujours tout à fait rempli mais qui peut ramener 50-60 000 personnes, l'autre qui peut rassembler 20 à 30 000 personnes. Il y a largement un bassin de population de 100 000 personnes pour deux clubs pour venir au stade dans une ville de 3 600 000 habitants.
Donc voilà pour ce qui est du football allemand et de l'intersaison qui se profile. Une dernière journée de Serie A où l'on retient d'abord ce fantastique adieu à Daniele De Rossi. Un adieu qui a fait pleurer un stade tout entier. Hein, les gros plans sur les 60 000 tifosi du Stadio Olimpico le montraient. Accolade, embrassade sur la pelouse alors que le maillot de tous ses camarades, de l'AS Roma, était floqué du même nom, De Rossi. Et qu'une grande banderole, d'ailleurs une des banderoles qui était dans le public, eh bien remerciait DDR 16, 16 le numéro, que donc Daniele De Rossi a éternisé en 616 matchs pour l'AS Roma chez les Giallorosso. Alors un adieu grandiose, 26 minutes d'ovation à la fin quand il a fait le tour du stade et qu'il s'arrêtait à chaque instant pour saluer le public, mais aussi sans doute une déception pour les tifosi de la Roma. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, donc c'était à la fois l'adieu et l'émotion et aussi la colère dans les tribunes.
Oui, une énorme colère. Mais malheureusement, on commence en Italie à se faire, peut-être pas seulement en Italie, à se faire l'habitude d'avoir des cas comme celui-là, des joueurs qui ont consacré toute leur carrière à un club et qui, tout d'un coup, sont éloignés avec un faible adieu, même pas un arrivederci, c'est vraiment un adieu. addio. Et c'est arrivé dans le passé avec Alex Del Piero, avant lui Giuseppe Bergomi à l'Inter, et puis Paolo Maldini. Paolo Maldini a dû attendre 10 ans avant de rejoindre de nouveau l'AC Milan. Aujourd'hui, c'est donc autour de Daniele De Rossi, 18 ans à la Louve, 616 matchs joués, mieux que lui seulement Francesco Totti, 63 buts. Et pour le président James Pallotta, 36 ans, c'est trop. Et voilà, il a décidé de ne pas lui renouveler le contrat. Et voilà, et ça termine maintenant l'histoire de Rossi à la Rome. Une histoire, disons, cela a provoqué une énorme, polémique chez les tifosi qui partout à Rome ont rempli Rome avec des banderoles en honneur de celui qui était jusqu'il y a quelques jours le capitaine de leur équipe.
Gilles Verdez, est-ce que c'est un président de la Roma qui n'a pas de cœur?
Oui, c'est un peu comme Ribéry au Bayern pour moi, quand vous avez des joueurs comme ça. Si vous allez au bout de cette logique sentimentale, de cette appartenance, encore plus pour De Rossi, mais de ces joueurs à un club, vous pouvez, à mon avis, leur faire un contrat presque à vie, c'est-à-dire à vie de footballeur. Et là, on a l'impression que c'est une volonté, je trouve, de stigmatiser à travers le joueur le manque de réussite d'une équipe. Franchement, il y est pour rien. Alors, il vire aussi l'entraîneur. On a l'impression que c'est le grand ménage. En le faisant partir, pour moi, la Roma perd son âme. La Roma, c'est une sorte de perdant magnifique, mais une équipe romantique aussi. Il y a un état d'esprit. Et en virant ce joueur, comme quand Totti était parti, c'est un peu de la part de rêve de la Roma qui s'en va. Donc, c'est une erreur.
Ouais, et l'ironie, ce serait qu'il aille jouer dans un autre club italien, un peu comme on fait des grands joueurs.
Là, c'est m'étonnerait qu'il fasse ça. Ça m'étonnerait. Après, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas très intelligent de partir comme ça sous l'ovation, plutôt que de faire l'année de trop, ou les deux années de trop, et là, on sort sous les sifflets, alors que là, il est sorti comme un dieu. Donc ça, il faut le prendre en compte, parce que peut-être que les supporters, vous savez, ça va très vite. S'il redémarre la saison, ça se passe mal,
mais,
on va voir.
Mais Matteo, Totti avait un peu tiré sur la corde, comme ça, ouais. On s'en souvient. Hein. Chaque saison, on se demandait s'il restait, s'il partait, c'était un peu un problème pour les entraîneurs. Malgré tout, il était parti par la grande porte, et en ne restant à vie que pour la Roma.
Oui, faut seulement souligner une chose, que Totti avait 40 ans et,
ben oui,
et De Rossi 36. Vous savez, dans le football, 4 ans, ça fait beaucoup. Donc, le même Daniele De Rossi l'a dit plusieurs fois, lui, il a encore envie de jouer. C'est pour ça qu'il s'apprête à vivre une nouvelle expérience. Et ce sera très probablement en Argentine, au Boca Junior, où il retrouvera son ancien coéquipier Burdis, qui actuellement est le directeur technique du club argentin. Boca Junior, vous le savez bien, c'est l'équipe de Diego Armando Maradona.
Oui, et puis Buenos Aires, c'est aussi une ville très italienne. Hein. On parle là-bas espagnol avec l'accent italien. Alors, grand
pas avec l'accent romain, je crois.
Non, mais bon, il peut s'adapter. En tout cas, c'était un grand joueur hein, qui a marqué aussi la sélection. Mais en plus, Matteo, il y avait quelques petites histoires, quelques anecdotes autour de Daniele De Rossi qui ont grandi son aura. Je pense à des gestes marquants comme cette médaille de champion du monde qu'il avait mise dans un cercueil, ou alors ce but marqué de la main.
Oui, écoutez Annie, il faut être honnête que Daniele De Rossi, c'est un joueur aussi connu pour être un peu un bad boy, je dirais pas méchant, mais quand même, sur le terrain, ça, car c'est quelqu'un qui lutte sur tous les ballons et souvent il dépasse un peu le bord. Pas mal de cartons rouges dans sa carrière, dont le plus fameux, c'était au championnat du monde de 2006 contre les États-Unis, avec ce fameux coup de coude contre l'adversaire qui a obligé l'Italie à jouer en 10 pendant presque une bonne partie du match. Mais De Rossi, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui met toute sa passion sur le terrain. Et pourtant, dans la vie, Daniele De Rossi, vous l'avez dit, c'est tout le contraire. Il est connu pour être très tranquille. Il a même vécu une l'histoire à cause de son ancienne femme qui, au moment de se séparer, lui avait empêché de voir ses filles. Cette même femme a été arrêtée par la police en 2014 pour avoir eu un rôle dans l'organisation d'un élèvement d'un entrepreneur. Donc c'était vraiment une sale, sale histoire, mais Daniel a su la surmonter et il est retourné au top niveau tout en sachant d'avoir vécu vraiment un drame. Donc chapeau De Rossi.
Ouais, De Rossi qui est né juste à côté de Rome, hein, puisqu'il était né à Ostie, donc c'est vrai qu'il avait pas beaucoup voyagé pour sa carrière. Marc, vous comprenez un joueur qui reste 18 ans dans le même club et sous le même maillot?
Oui, s'il est bien, bien sûr. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Il y a des joueurs que...
Pourquoi c'est si rare et de plus en plus rare?
C'est rare parce que les encadrements, ce qu'il peut y avoir autour, ce qu'on entend, les propositions qu'on peut avoir. De ma génération, on pensait jamais partir, pour ma part, de Marseille. Parce que, ben, pour nous, c'était, on avait un club, deux clubs. Et puis après, on s'est aperçu que finalement, nous, on recevait, on nous appelait au mois de mai, un club nous appelait ou deux clubs nous appelaient en direct à la maison. Tu veux pas venir à Lyon, à Bordeaux? Pour moi, c'était le cas. Non, je suis bien à Marseille. Bon, merci, au revoir. La com m'avait téléphoné, j'avais répondu ça. Donc c'est aujourd'hui tous les 15 jours, 3 semaines, vous recevez un appel. Allô, je vais t'envoyer à droite, à gauche. Voilà, c'est différent.
Agents aussi peut-être.
Oui.
C'est ce qui crée le fossé parfois avec les supporters. C'est ce qu'on appelle l'amour du maillot qui disparaît. C'est vrai que les joueurs, mais c'est un système marchand, donc les joueurs ont des propositions comme disait Marc, qui s'en vont, alors que les supporters eux restent. Donc du coup, pour les joueurs qui restent, il y a cet amour, presque cette dévotion. Mmh. Eux sont restés malgré les sollicitations, parce que tant Totti que De Rossi en ont eu, mais ils sont rester. Et c'est ça qui est beau dans le football, c'est faire ressusciter cet amour du maillot. Parfois, c'est
la fidélité.
La fidélité, c'est ce qu'on reproche aussi au PSG, qui ces jeunes joueurs, eh bien, ils les laissent partir et il n'y a pas sur le terrain cet amour du maillot. Et parfois, on dit oui, mais ils se battent pas pour leur club, leur maillot, parce que ils n'ont pas cet amour-là en tête.
Ouais. Alors, Mathéo, l'autre grand fait purement footballistique de ce championnat, c'est la campagne de l'Atalanta Bergamo, comme on dit en Italie, hein, la ville de Bergame, qui est dans la région de Milan. Troisième sur le podium donc de cette Serie A, qualifiée en Ligue des Champions, grâce au plus beau football pratiqué cette saison en Serie A, c'est bien ça?
Je suis tout à fait d'accord. La déesse, comme on surnomme ce club, est rentrée dans le rang un peu du calcio et surtout dans celui de la Ligue des Champions, car l'Atalanta, c'est vraiment une merveilleuse réalité qui n'a pas cessé de s'améliorer depuis 3 ans. C'est donc un projet gagnant qui a tout misé sur d'un côté les jeunes, beaucoup formés directement au sein du club, et de l'autre s'est confié à un entraîneur, Giampiero Gasperini, qui a fait du spectacle et du beau jeu son credo officiel. Et les résultats sont sous les yeux de tous. L'équipe a terminé le championnat à la 3e place, jamais aussi bien en 112 ans de vie, car le club a été fondé en 1907. C'est aussi un record, le nombre de buts réalisés cette année au championnat, 77, qui fait de Nerazzurri le meilleur attaque de la Serie A. Héros sur le plan offensif, le Colombien Duván Zapata, 23 buts pour lui, deuxième au classement des buteurs. Et sacrée revanche pour lui qui est arrivé en Italie en 2013, a été trop vite écarté dans l'ordre par Napoli, Udinese et Sampdoria qui n'ont jamais pas cru en lui.
Vous avez été aussi impressionné par le style de l'Atalanta, David?
Oui, et ça n'est pas un coup de fin de saison, c'est quelque chose qui s'est vraiment installé petit à petit. Alors peut-être si on veut être un peu chagrin, Matteo parlait à l'instant du deuxième meilleur buteur de l'Allemagne, c'est l'habitude. L'Italie, c'est un ancien qui est devant lui, Quagliarella.
Oui.
Et puis au classement, c'est pareil. Où sont l'Inter, où sont l'AC Milan, où sont la Lazio? Ils sont un peu derrière. Et peut-être c'est aussi un mérite de cette équipe d'avoir profité de ce contexte-là cette saison.
Gilles.
Oui, mais pour moi, la renaissance du football italien qu'on annonce depuis 2 saisons, elle viendra du jeu. Et elle viendra notamment de ses entraîneurs, qui sont très bons, qui sont de très gros tacticiens. Ils l'ont toujours été en Italie, qui maintenant aussi sont de grands managers, parce qu'il faut les deux casquettes, et qui s'exportent. Voilà. Et là, on en a un. Il y a une école, il y a eu l'école napolitaine, pour les plus récents, parce qu'avant, il y avait d'autres écoles, mais il y a eu l'école napolitaine, avec un entraîneur qui s'est exporté. Il y a cet Atalanta Bergame qu'on a de voir au plus haut niveau quand même, parce qu'il va falloir voir si ce jeu offensif, cet esprit-là, peut être adaptable, transposable en Ligue des Champions. Il faudra quand même, de mon point de vue, une rigueur défensive, sinon ça risque d'être une désillusion.
Justement, Matteo, c'est la grande question autour de cet Atalanta-Bergame. Est-ce que l'équipe va être pillée à l'intersaison ? On voit que malheureusement, ça se produit de plus en plus dans les équipes qui ont à peine le temps de faire une bonne saison avec leurs joueurs et leur staff, et tout d'un coup, on les pille. Est-ce que Gasparini sera encore là l'année prochaine, Zapata et tout le monde ?
Oui, en effet, c'est très probable parce que à même pas deux jours de la fin du championnat, l'assaut des grands clubs à l'Atalanta et ses merveilles a déjà commencé. Le grand saccage, on l'appelle ici en Italie. L'entraîneur, vous l'avez dit, le grand héros Gasperini est déjà donné partant à l'AS Roma. Même si le président du club lombard, qui s'appelle Percassi, a nié ce départ. Le technicien est en train de réfléchir à cette proposition. Aujourd'hui même, je crois qu'il y a un face-à-face entre lui et le patron du club. Gasperini, pour rester, a demandé une seule chose, que le meilleur joueur ne soit pas vendu aux autres équipes. Difficile de croire qu'une chose comme ça puisse arriver, car aussi le même Zapata, on vient d'en parler, à son tour est un objectif de la Louve, tandis que l'autre buteur de l'équipe, le Slovène Iličić, est suivi de très près par le Napoli. Et puis ensuite, le Belge Timothy Castagne, qui était vraiment une des grandes révélations de ce collectif de l'Atalanta. Donc Castagne, qui est capable de couvrir plusieurs rôles dans l'équipe. Sur lui, il y aurait un fort intérêt de l'AC Milan. On verra, mais une chose peut se dire. Chaque année, l'Atalanta a dû vendre ses pièces meilleures aux autres, mais chaque année, elle a su les remplacer au top.
Marc, c'est un peu dommage pour une équipe qui, historiquement, se qualifie pour la première fois en Ligue des Champions, va donc faire une apparition et peut-être affaiblie par tous ses départs.
Oui, mais effectivement...
Il n'y a pas de cohérence dans le projet.
Non, mais il n'y a pas de cohérence. Le problème, comme Matteo nous dit, chaque année, il y a des jeunes qui arrivent.
Ils y arrivent.
Et ils y arrivent, et
donc
ils s'en sortent.
Vous pensez qu'il faut être optimiste?
Mais après, Zapata, qui est passé par déjà des clubs huppés, qui n'a pas forcément réussi, imaginez si le club reçoit une offre de 70 ou 80 millions pour un grand club. Même Zapata, il peut dire, ouais, je vais à la Ligue des Champions, mais peut-être qu'on passera pas le premier tour et qu'en décembre, je serai en vacances. Donc, je me dis, peut-être c'est le contrat de ma vie ou pas, on sait jamais. Mmh. Et là, c'est le club qui a fait un travail en amont formidable depuis plusieurs années.
Oui, c'est un club formateur.
Qui est formateur, donc qui est un petit peu récompensé. Donc maintenant, c'est après aux joueurs de voir. Mais on va avoir le même problème avec l'Ajax. Mmh. Ils vont être sûrement dépouillés, savoir si c'est bien ou c'est pas bien.
Les cycles sont de plus en plus courts, en fait. Mm-hmm. Vous avez les équipes qui arrivent à maturation en disant en deux saisons. Une saison pour l'homogénéité. La deuxième saison, si vous éclatez. La troisième, c'est fini. C'est la disparition. Oui. C'est fou. C'est une accélération du foot où les joueurs, maintenant, pour Marc le disait, 70-80 millions, de plus en plus jeunes, on le voit à l'Ajax, on va le voir dans d'autres clubs, sont vendus à des clubs qui les enrôlent. Donc en fait, le marché des jeunes joueurs est en telle accélération que les clubs qui étaient formateurs, qui pouvaient s'installer sur 2-3 ans pour créer une dynamique, n'ont plus le temps maintenant. Mmh.
Matteo, une chose encore, à Milan, là où vous êtes, les Nerazzurri rient et les Rossoneri pleurent, hein, c'est bien ça ?
Oui, oui.
Alors, il y a eu...
La ville des mouchoirs.
Il y a eu effectivement un énorme suspense durant les dernières 90 minutes du 38e match de la saison. L'Inter a réussi à décrocher la Ligue des Champions en gagnant, alors que le Milan AC, qui a aussi gagné son match, et bien malheureusement se contente de la Ligue Europa. D'abord, l'Inter, est-ce que selon vous, il conclut d'une belle manière, même et en dépit de toute cette histoire autour de Icardi, qui aura participé à la dernière victoire ?
Vous l'avez dit, Annie, l'Inter achève une saison qui, au-delà de cette quatrième place qui est certainement importante, restera, disons, dans la mémoire, surtout pour avoir mis fin au rapport entre le club et le même Mario Icardi. Une liaison vraiment tourmentée, d'un côté l'attaquant qui demandait plus d'argent, de l'autre des dirigeants qui en avaient marre, ils en avaient plein la tête de son comportement et aussi de son agent qui est sa femme Vandanari, qui ont causé des énormes problèmes.
On s'en souvient.
Voilà, ils ont causé vraiment des grands problèmes. Le même Icardi, à un certain moment, s'est trouvé à affronter presque tous ses coéquipiers qui ont demandé de lui enlever le brassard. Chose qui
à sa femme alors.
Non, pas sa femme.
C'était où sa femme ou le brassard ? Il a choisi sa femme, c'est normal, Annie.
C'est mieux changer le brassard dans la vie, vous dites. Je vais noter. Et bon, l'Inter, même en souffrant, a donc arraché cette quatrième place. L'équipe joue en Ligue des Champions. Et sur le banc, on attend d'un moment à l'autre l'arrivée du nouveau coach, qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, Antonio Conte. Il devra donc bâtir une équipe plus solide, tout en sachant qu'Icardi ne fera pas partie du groupe.
Alors Matteo, passons à l'autre Milan, parce que c'est la grande déception, cruelle déception. L'équipe avec le troisième meilleur buteur de ce championnat, on se souvient de son transfert de Piontek, eh bien n'aura pas suffi à les qualifier. Écoutons d'ailleurs l'entraîneur Gattuso, qui a été le premier à démissionner de ce groupe, de l'admin du staff qui va changer. Et Gattuso a voulu expliquer pourquoi.
Des problèmes.
Vous, les journalistes, vous avez décidément beaucoup de problèmes avec ce club. Mais tout d'abord, je pense qu'il faut féliciter les joueurs qui ont réussi à prendre 68 points cette saison. Alors c'est vrai, nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Et cela fait même plusieurs années que nous courons après, même si notre équipe a remporté beaucoup de titres par le passé. Je pense que les attentes sont trop élevées et qu'il y a beaucoup de commérages autour de nous. Nous sommes l'AC Milan, une équipe comme la nôtre subit évidemment beaucoup de pression. On parle de nous tous les jours dans les journaux, sur Internet, mais il y a trop de fausses informations. Hier, j'ai lu que l'équipe avait dépensé 170 millions d'euros, alors que moi-même, je ne suis pas au courant d'une telle somme. Ce genre de rumeur est relayé chaque mois. C'est trop. Les joueurs m'ont beaucoup donné. Bien sûr, nous regrettons de ne pas être qualifiés pour la Ligue des Champions. Il ne nous a manqué qu'un point.
Eh oui, il leur a manqué qu'un point. On en connaît des clubs qui, ne sont pas champions pour quelques buts d'écart. En tout cas, Matteo Gattuso se dit victime de la presse, c'est ça, de fausses informations, de trop de rumeurs et de trop de polémiques.
Oui, je sais pas si c'est vrai. À mon avis, c'est pas vrai, mais je peux pas dire parce que je suis un journaliste. De toute façon, Gennaro Gattuso quitte le club certainement pas à cause des journalistes, mais à cause d'un objectif qui était raté, qui était celui de se qualifier pour la Ligue des Champions, et surtout à cause de la nouvelle stratégie qui a été présentée par Ivan Gazidis, qui est le directeur général du club milanais. Et qui
c'est la révolution du côté de Milan, effectivement.
Oui, c'est une grande révolution parce que Gazidis veut construire une équipe avec des joueurs très jeunes pour ensuite les vendre s'ils deviendront des champions. Vous pouvez imaginer ce que cela signifie pour les supporters de l'AC Milan.
Oui, le désespoir.
C'est déjà une guerre qui s'annonce.
Ouais. Et justement, Marc a une information qu'il aimerait partager avec vous à ce sujet-là.
C'est ce que j'ai entendu, ce qui se lisait dans la presse un peu italienne, hein, que bah, déjà Gattuso partirait. Il a dit, je leur demande pas d'argent, ils me doivent 2 ans, je pars en seigneur. Je crois que c'est peut-être Gattuso ou pas, c'est vrai. Parce que...
Il a décidé de donner l'argent au staff technique de l'équipe.
Voilà,
ça vient de sortir.
J'embrasse Rudy Garcia. et ensuite, ils veulent pas laisser la Ligue Europa pour remettre à plat un petit peu le fair play financier, pour se remettre à jour. Est-ce que ça, c'est pas dans les tuyaux?
Oui, c'est une des hypothèses que le club est en train d'évaluer, s'il y aura en effet cette condamnation de la part de l'UEFA. L'AC Milan pourrait éviter de jouer cette prochaine saison en Ligue des Champions, en Europa League. Pour, disons, mettre fin à toute la querelle qui concerne le fair play.
Et du coup, c'est la Roma qui prend une hypothèse. Du coup, ça serait la Roma qui prend l'Europa League.
La place. Ouais.
Et le Torino.
Parce que la Roma est déjà qualifiée et la Lazio aussi. Gilles, on tombe de haut là. On se souvient des belles années du Milan AC avec toutes ces ligues des champions.
Et avec ce joueur d'ailleurs.
Et avec Gattuso, bien sûr.
C'est un cauchemar, mais ça n'en finit pas. Tous les années, ils nous annoncent la reconstruction. Là, ils ont mis Leonardo avec Maldini comme adjoint. C'est encore le fonds de pension qui dit je lourde tout le monde. Mais quand vous prenez à la liste, moi j'ai connu le Milan avec Berlusconi, Galliani, Braida. On en pense qu'on veut. On fait pas de politique, mais au niveau du foot, ça fonctionnait. Une hiérarchie verticale. Et il y avait des transferts de folie, ça marchait. Quand vous prenez la liste des derniers entraîneurs de l'AC Milan, Gattuso, Montella, Miajlovic, Inzaghi, Zidorf, ils ont pris des anciens joueurs et ils ont pensé que ça ferait des entraîneurs. Mais c'est une erreur magistrale. À Milan, il faut de grands entraîneurs. Donc là, on est dans un puits sans fond. Je ne sais pas jusqu'où va aller la chute.
Matteo, vous nous raconterez la suite, hein, parce que votre cœur de Milanais saigne un peu.
Oui, je voulais seulement vous dire que Leonardo a démissionné en même temps que Gennaro Gattuso.
Ouais. Merci beaucoup Matteo d'avoir été en direct avec nous dans ce Radio Foot International. Chers auditeurs, demain nous parlerons de Neymar. Neymar qui lui bien, a perdu le brassard, pas sa femme mais le brassard. Nous y viendrons demain. André Villas-Boas nous a brûlé la priorité. Merci à tous et à demain.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.